Chaleureuses salutations à chacun et chacune. Vous tous qui observez cette belle fête des trompettes, qui a tellement, tellement, tellement de signification profonde et encourageante. Les personnes qui sont plus nouvelles avec nous vont découvrir des choses, les autres vont pouvoir en approfondir davantage. Le titre de mon message aujourd'hui, les événements de la septième trompette. Les événements de la septième trompette. Vous savez que chacune des fêtes décrétées par Dieu représente une des étapes de son plan, du plan qu'il est en train d'accomplir. Et par rapport au temps de la fin où nous sommes au temps de la fin, on le voit par les signes extérieurs dans le monde, la prochaine étape à se réaliser, c'est justement celle de la fête des trompettes qu'on a le bonheur et le privilège et la responsabilité de célébrer aujourd'hui. Bientôt, 7 trompettes se feront entendre sur toute la terre, successivement, une à la fois, quand, au cours de la dernière année précédant le retour de Jésus-Christ sur la terre, c'est-à-dire la dernière des 3 années et demie de la grande détresse qui approche. C'est ce que la Bible appelle le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est une année, c'est la dernière année de la grande détresse. Et la Bible l'appelle, cette année-là, on va voir tantôt plus en détail dans la Bible, l'année de la colère de Dieu. L'année de la colère de Dieu. L'année au cours de laquelle Dieu va intervenir directement de façon fracassante et éclatante dans les affaires du monde pour préparer la libération de l'humanité et l'arrêter de souffrir, pour établir un gouvernement mondial juste et que les gens vivent en paix et dans l'abondance. Aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur les événements de la septième trompette. Ces événements-là que je vais vous décrire vont se produire vers la toute fin de la dernière année précédant le retour du Christ sur la terre. Les événements que je vais vous décrire là, à partir de la Bible, ça va arriver à la toute fin de la dernière année avant le retour de Jésus-Christ. Et parmi ces événements-là, par exemple, je vais parler à un moment donné de la résurrection de ceux qui appartiennent à Dieu. Ça fait partie de ces événements-là qui vont arriver à la toute fin. Résurrection de ceux qui sont décédés dans l'histoire, là, comme le roi David, Moïse, les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament, ses prophètes, et ceux de notre époque, M. Armstrong, M. Appartient, et ceux d'entre nous qui vont peut-être s'endormir avant que le Christ revienne, mais qui vont être amenés à la vie à ce moment-là. Première résurrection, et cette résurrection-là, pour les serviteurs de Dieu, comme on sait par la Bible, c'est une résurrection à la vie éternelle, non pas à revenir en vie physiquement, mais à ce moment-là, devenir des êtres spirituels. Aussi, dans cette courte période, à la toute fin, il y aura l'arrivée de Jésus-Christ. C'est dans le cadre encore des événements de cette septième trompette. Je situe bien mon sujet pour que vous puissiez me suivre de façon précise. C'est un sermon un petit peu différent de ce que je donne habituellement, que je vais vous donner aujourd'hui. À partir de la Bible, je vais vous montrer les événements précis de la septième trompette. Et je vais vous les donner en ordre, tel que la Bible nous le montre, dans leur séquence. Bien que la Bible présente les choses, vous savez, un peu ici, un peu là, et c'est pas nécessairement dans l'ordre chronologique, mais moi, ce que j'ai fait aujourd'hui pour le message, c'est que j'ai mis les événements de la septième trompette dans un ordre chronologique précis qu'on peut vérifier bibliquement parlant. Prenez de bonnes notes, et vous pourrez vérifier ces choses-là et refaire l'étude par vous-même pour vous convaincre puis être encouragé à partir de ce que la Bible dit. Ce que je vous dis aujourd'hui, je le base exclusivement sur la Bible. On va lire certains passages ensemble, mais en cours de route, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous donner certains versets, chapitres et versets, et moi, je vais vous les dire, mais on n'ira pas pour garder l'explication dans une certaine ligne, et vous pourrez ensuite vous retourner dans ces versets-là et refaire le cheminement justement pour prouver les choses. La séquence des événements. La septième trompette annonce la prise en charge des nations de la terre par le Christ pour établir le gouvernement de Dieu sur la terre, c'est-à-dire son royaume. Un royaume, c'est un gouvernement. Et le Christ sera le roi de ce gouvernement-là. Et ceux d'entre nous qui auront été fidèles, nous serons les petits rois sous le roi des rois pour aider les gens, pour les guérir, les enseigner, les encourager et reconstruire le monde qui aura été détruit par la grande détresse, par la troisième guerre mondiale qui approche. Alors, donc, la septième trompette annonce la prise en charge des nations de la terre par le Christ et par ses saints qui seront ressuscités. Allez dans Apocalypse, chapitre 11. Apocalypse, chapitre 11. Et on va lire le verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. De quoi je vous parle? De la septième trompette et des événements qui arrivent à partir de ce moment-là, quand la septième trompette va sonner. Et ce sera entendu sur toute la terre. Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Ici, ce qui est dit, c'est une proclamation, c'est un décret venant de Dieu, disant que le temps est venu pour que la direction du monde soit prise en charge par le Créateur. On sait que c'est le Christ qui nous a créés, selon le plan qu'il avait établi avec son Père, avec le gouverneur de l'univers. Ce sera aussi, comme j'ai mentionné, le moment de la première résurrection. Première résurrection, ça vaut la peine qu'on regarde 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Vous allez voir, tout se tient dans le plan de Dieu et son plan est extrêmement précis. Ce qu'il a accompli dans son plan jusqu'à date s'est réalisé et ce qu'il annonce dans ce qui reste à accomplir va également s'accomplir. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. » Donc, il dit, il y aura des membres de l'Église de Dieu qui seront encore vivants au moment où le Christ va revenir. Et bien sûr, ces gens-là seront en un lieu de sécurité, comme on a vu déjà aussi. Ils seront sous la protection de Dieu durant les trois dernières années et demie avant le retour de Christ. Alors, il dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. » Et ceux qui sont décédés, dont il est question ici, ce n'est pas tout le monde. C'est ceux qui appartenaient à Dieu dans l'histoire. Le roi David, Moïse, Abraham, tous les serviteurs de Dieu qui sont décédés au cours de l'histoire. Ils seront ressuscités avant que nous soyons transformés. Presque au même moment, mais ils vont quand même nous précéder, c'est ce qui est mentionné ici. Regardez bien. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés ou ceux qui sont dans le sommeil de la mort. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et regardez bien, au son de la trompette de Dieu, septième trompette. C'est à ce moment-là que c'est déclenché. Au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Et les morts en Jésus-Christ, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu qui ont fait son travail au cours de l'histoire, qui l'ont servi, qui ont vécu selon ses voies, mais qui sont décédés, comme je mentionnais le roi David et les quelques autres de l'Ancien Testament, à ce moment-là, ressusciteront. Donc, au son de la trompette de Dieu, le Christ descendra du ciel et les morts qui lui appartiennent, les morts en Jésus-Christ, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, ceux qui appartiendront à ce moment-là fidèlement à l'Église de Dieu, nous, les vivants qui serons restés, qui seront encore vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, il ne dit pas, il précise pas ici, mais on va préciser un petit peu plus loin qu'est-ce qui va en être de ceux-là, une précision additionnelle. Dans le fond, ce qu'il décrit ici, c'est la même chose que vous trouvez. Vous pouvez noter le passage, parce que ça va avec ça. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52. Il est écrit, et ça décrit le même moment. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la septième, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Donc, ces morts qui appartenaient à Dieu au cours de l'histoire, au moment où la septième trompette va sonner, seront d'abord ramenés à la vie, mais ils seront ramenés à la vie éternelle. Ils seront des esprits. C'est pour ça qu'il dit ils seront incorruptibles. Ils ne seront pas faits de chair et de sang comme nous maintenant. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, qui serons encore vivants, physiques à ce moment-là, nous serons changés. À ce moment-là, les fidèles serviteurs de Dieu qui seront encore des êtres humains physiques seront changés en êtres spirituels, de même nature que ceux qui viendront tout juste d'être ressuscités avant et qui seront des êtres spirituels également. Ce sera la famille de Dieu, tous de même nature que le Christ. Et je vais plus loin maintenant. C'est à ce moment-là que le Christ paraît. C'est à ce moment-là que le Christ arrive dans l'atmosphère terrestre. Je précise ça parce que c'est important. C'est à ce moment-là que le Christ arrive dans l'atmosphère terrestre pour rencontrer ses fidèles serviteurs, ceux de l'Ancien Testament qui seront devenus des êtres spirituels et ceux du Nouveau Testament, la petite Église de Dieu, qui sera encore vivante et qui sera transformée elle aussi en êtres spirituels. Alors le Christ vient rencontrer ses fidèles serviteurs devenus des êtres spirituels. Pourquoi? Pour les amener aux noces de l'agneau. Pour les amener aux noces de l'agneau. Parce que Dieu va épouser son Église, ceux qui font partie de son Église. Pour les amener aux noces de l'agneau. Allez à Apocalypse, chapitre 19. Vous allez voir, tout se tient et tout est tellement emballant, encourageant. Et les noces de l'agneau, comme on a appris par les textes, ça va se passer dans la salle du trône, au ciel, la salle du trône du Père, de notre Père, du Père de Jésus-Christ, du gouverneur de l'univers. C'est là que ça se passe. Alors, le Christ paraît, ses serviteurs sont ressuscités, ramenés à la vie, ceux de l'Ancien Testament, ceux actuels, et ce groupe-là, maintenant, se rend à la salle du trône pour une certaine période de temps, pour les fameuses noces de l'agneau. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous. À ce moment-là, on va se réjouir. Écoutez, on va être rendu à une autre étape et dans une autre dimension. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Il y aura des merci. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'épouse sera là parce qu'elle sera prête. Et c'est pour ça qu'on a, nous, à se préparer maintenant, à se purifier et à se préparer pour les noces de l'agneau. Maintenant, je continue dans la description des événements. C'est comme un film. Je vous montre comme un film de ce qui va arriver. Pas parce que moi, je l'ai pensé, mais parce que c'est écrit dans les textes. Et je le mets dans cet ordre-là pour que vous voyez comment ça va se dérouler. À partir de ce moment-là, à partir du moment où tous les saints ressuscités ou transformés seront dans la salle des noces de l'agneau, à ce moment-là, c'est le déclenchement des sept derniers fléaux. C'est le déclenchement des sept derniers fléaux de Dieu sur l'humanité. Ces fléaux-là vont se dérouler en l'espace de quelques jours seulement. Quelques jours seulement avant le retour de Jésus-Christ. Et quand vous regardez dans notre brochure le mystère révélé de l'Apocalypse et que vous voyez quels sont ces fléaux-là, on voit que ça ne peut pas durer longtemps parce qu'il n'y aurait plus personne de vivant sur la face de la terre. Alors, c'est pour ça que ça va durer aussi seulement quelques jours, ces sept fléaux-là. Ces fléaux-là seront les derniers. Ils vont compléter la colère de Dieu. Ces fléaux-là vont compléter la colère de Dieu. Apocalypse, chapitre 15. Apocalypse, chapitre 15, on va lire le verset 1. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers fléaux, car par eux s'accomplit quoi? La colère de Dieu. C'est la fin de la colère de Dieu. On voit encore une précision juste un peu plus loin, Apocalypse 16, verset 1. Notez bien ces choses-là et vous pourrez refaire l'étude chez vous. Vous allez être vraiment encouragé par ça. Allez à Apocalypse 16, verset 1 maintenant. « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Et ça va être des fléaux terribles sur l'ensemble de l'humanité. Vous irez voir de quoi il s'agit. Pendant que ces sept fléaux s'abattront sur la terre, je repose la question. Vous savez déjà un peu la réponse, mais je veux bien préciser les choses. Où seront à ce moment-là les fidèles serviteurs de Dieu ressuscités ou ayant été transformés en êtres immortels? On va voir. C'est dans le même passage. Revenez à Apocalypse 15. On va relire le verset 1. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Et je vous ai dit tantôt que quand l'épouse, les membres de l'Église ressuscités, transformés, seront dans la salle des noces, à ce moment-là, c'est le signal pour que les sept derniers fléaux commencent. Et on le voit tout de suite au verset 2. « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom était debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. » Voyez-vous, ça, ce n'est pas sur la terre. Ça, c'est devant le trône de Dieu, la mer de verre. Vous irez voir dans Apocalypse 4, verset 6. Faites un tiret et marquez simplement Apocalypse 4, verset 6. Moi, je vais vous le dire ici. Ça décrit le même lieu. Et c'est une vision que l'apôtre Jean a eue à ce moment-là du trône de Dieu, de la belle salle du trône de Dieu. Il y a encore devant le trône, en parlant du trône de Dieu au ciel, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Voyez-vous, c'est le même endroit. Et c'est là que la famille de Dieu, c'est là que l'épouse du Christ sera réunie avec le Père et avec l'époux dans la salle du trône. Revenons maintenant au verset 2, je le relis. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nom de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Lisons maintenant à partir du verset 5, 5 à 8. Verset 5 à 8. Après cela, je regardai, c'est encore la vision de l'apôtre Jean, Dieu lui a révélé dans sa tête ce qui allait venir à notre époque et un peu après, au moment de la septième trompette. Après cela, je regardai et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus de fin lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges soient accomplis. Voyez-vous comment tout est précis dans le plan de Dieu? Et c'est formidable quand on peut mettre en séquence comme ça, temporelle, ce qui va se passer. Ça nous fait voir vraiment ce qui s'en vient et ce qui va se passer. Et à ce moment-là, nous serons, parce que je présume que nous serons là, on veut y être, on persévère dans les voies de Dieu. Et si on persévère, Dieu va nous amener, Dieu va nous purifier, il va nous aider à nous rendre à terme. À ce moment-là, ceux qui auront été ressuscités et transformés en êtres spirituels qui seront dans la salle du trône seront hors de l'espace, hors du temps aussi. Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé la matière, Dieu a créé l'espace entre les lieux, parce que ça prend la matière pour qu'il y ait de l'espace, et le temps. Dieu a créé le temps, l'espace, la matière. Mais Dieu lui-même est en dehors du temps. C'est pour ça que la Bible dit que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Ou 1000 ans, c'est comme un jour. Lui est en dehors du temps. Alors, quand nous serons aux noces de l'agneau, comprenez-vous qu'on sera hors du temps. Donc, ça ne correspondra pas au temps qui va continuer de se passer sur la terre, au nombre de jours qui va se passer sur la terre pendant les sept derniers fléaux, qui eux autres vont arriver à la toute fin. On va être en dehors du temps. Alors, ça veut dire qu'on pourrait être très longtemps dans la dimension de Dieu, dans la salle du trône, alors que sur la terre vont se dérouler les sept derniers fléaux. Parce que je présume, sans l'ombre d'un doute, que comme c'est un événement tellement important que ça ne sera pas fait à la hâte, on aura le temps à ce moment-là de parler au Christ, de parler au Père, de vivre ces événements-là extraordinaires. C'est là qu'on rencontrera Moïse, qu'on rencontrera le roi David, que je pourrai, et vous aussi, ceux qui l'ont connu, rencontrer M. Apartien, M. Armstrong, que j'ai eu l'occasion de connaître aussi, et tout ça, parce qu'ils auront été ramenés à la vie, et ils seront là pour les noces de l'agneau, parce que ça a été des serviteurs fidèles de Dieu. Alors, je ne peux pas décrire tout ce qui va se passer, mais on peut en rêver. Dieu étant Dieu, Dieu voulant tellement nous bénir que cette occasion-là sera sans pareil. Sans pareil. Alors, à partir de ce moment-là, à partir du moment où les saints devenus totalement esprits immortels seront avec le Christ dans la salle du trône pour les noces de l'agneau, je reviens là-dessus, donc, les sept fléaux vont frapper la terre, soit jusqu'au jour des expiations où Satan et ses démons seront finalement liés et empêchés de continuer à nuire à l'humanité. Des événements majeurs. Maintenant, il y a un autre événement aussi qui arrive, lui, lors du sixième fléau. Quand on lit les fléaux dans le livre que je vous ai dit, dans la brochure, là, Le mystère révélé de l'Apocalypse, vous pourrez vérifier ces choses-là, mais lors du sixième fléau, il y a un événement majeur qui arrive, qui se produit sur la terre. Les armées du monde vont se rassembler, ou on peut dire se seront rassemblés, parce qu'il faut que les mouvements des armées aient lieu, qu'il y ait le temps de se rendre là-bas. Les armées du monde se seront rassemblées à Megiddo, qu'on appelle Armageddon. Les armées du monde, d'immenses armées, vont être réunis à Armageddon ou Megiddo, près de Jérusalem. Et à ce moment-là, les armées vont se liguer ensemble. Ils vont être là dans un premier temps, je n'entre pas dans les détails, mais elles seront là dans un premier temps pour s'affronter. Mais lorsqu'elles verront descendre du ciel le Christ, elles ne seront pas d'accord. Et comme j'ai déjà expliqué dans des émissions, c'est qu'elles prendront le Christ pour un extraterrestre. Ça a tout été bien préparé dans les mentalités, avec tout ce qui est fait comme film, comme présentation à travers le monde. Et les armées qui allaient s'affronter vont plutôt se mettre ensemble parce qu'ils vont penser avoir un ennemi commun pour combattre le Christ à son retour. Surprenant? Pas du tout. Quand le Christ est venu la première fois, est-ce qu'ils l'ont accueilli? Ils l'ont tué. Pensez-vous que l'humanité est différente de ce qu'elle était à ce moment-là? Elle est différente dans le sens qu'elle a des armements extrêmement sophistiqués, extrêmement puissants, on le voit. Alors, tous ces armements-là seront mis à contribution pour essayer de détruire cet être-là brillant qui s'en vient, lumineux. Elles vont se liguer pour combattre le Christ quand il descendra cette fois-là définitivement, après les noces. Voyez-vous, quand il est venu, là, au début, c'était pour rassembler ses serviteurs, les amener au mariage de l'agneau, et après ça, il redescend, et là, c'est le moment où il descend définitivement et où il va établir le gouvernement de Dieu. Apocalypse, chapitre 16. Apocalypse, chapitre 16. Nous allons lire les versets 12 à 16. Ici, il parle des fléaux en question, là. Verset 12. Apocalypse 16. « Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. » Et on sait par la Bible qu'il y aura une armée à ce moment-là qui va venir de l'Orient, une armée de 200 millions d'hommes. Sans compter, lorsqu'on parle de d'un grand nombre de soldats qu'il y aura autour de Jérusalem. Il y aura cette armée-là de 200 millions d'hommes, on le voit par la Bible, et il y aura l'armée de la bête. On ne sait pas combien de millions de soldats qu'il y aura, mais ça va être épouvantable comme il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Et en même temps, l'humanité va apprendre une leçon comme elle n'a jamais apprise, parce qu'elle va rencontrer son Dieu qui vient en toute puissance. Cette fois-là, il ne vient pas comme un être humain pour donner volontairement sa vie pour payer l'amende de nos péchés, mais il vient en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs pour dire « c'est assez ». Et maintenant, on va passer à un autre monde. Alors, il vient donc pour vaincre. Alors, le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, et on sait c'est qui le dragon, c'est le serpent ancien, c'est Satan, qui est derrière toutes les méchancetés de l'humanité, et qui à ce moment-là va rassembler les armées comme on voit ici. Et je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, parce que c'est Satan qui inspire la bête et le faux prophète, c'est-à-dire le dirigeant de l'Empire romain ressuscité, un nouvel Hitler, et le chef religieux qui va supporter son action. Vu sortir de la gueule de la bête, de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Il y aura des prodiges incroyables. La Bible ne précise pas, mais il y aura des prodiges incroyables qui vont laisser croire que ce faux prophète-là est littéralement Dieu et qu'il a une puissance extraordinaire. Et que la bête, personne ne peut l'arrêter, comme c'est marqué dans Apocalypse aussi. La terre entière sera en admiration devant l'Empire romain en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut l'arrêter? » Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. C'est pas peu de choses, vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le combat que le Christ va livrer à son retour avec ses saints. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Et pour nous, il ne vient pas comme un voleur parce qu'on l'attend. Et si on attend le Christ, on se prépare pour être jugé digne d'échapper aux choses qui viennent. Veillez et priez pour être jugé digne d'échapper à ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je viens comme un voleur pour l'ensemble de l'humanité. Ils ne comprendront pas. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. C'est pour ça que le Christ a dit « Veillez et priez en tout temps, étudiez chaque jour, travaillez à changer, à vous améliorer. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » C'est-à-dire qu'il doit marcher selon la justice de Dieu. Et c'est ça, la justice de Dieu, la façon de vivre selon ses lois. Ce sont les vêtements des saints, le fin lin. Et regardez qu'est-ce qui arrive. Les esprits impurs avec la bête et le faux prophète amène les armées à se réunir. Regardez le verset 16. « Ils les rassemblèrent, les nations et leurs armées, dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. » Et ces immenses armées vont se retrouver là, qu'elles le veuillent ou non. Mais elles vont le vouloir parce qu'elles vont vouloir continuer à dominer, à s'entretuer, inspirées par le méchant adversaire. Et quand tout ça sera en place, c'est à ce moment-là que le Christ revient, là, avec son armée, ses saints transformés, prêts à combattre. Maintenant, il y a un verset que j'ai trouvé hier soir en préparant le message d'aujourd'hui qui décrit ça, qui décrit que Dieu passe en revue son armée avant ce grand combat-là. C'est fantastique. Allez dans Ésaïe chapitre 13. Vous pouvez garder votre place dans Apocalypse, on va revenir. Mais si vous allez dans Ésaïe chapitre 13, vous savez, le Christ avec ses armées, avec ses saints ressuscités, ses fidèles serviteurs, viennent de loin, hein? Ils viennent d'un pays lointain quand ils descendent de la salle du trône, parce qu'ils viennent de la salle du trône de Dieu. Ésaïe 13 et le verset 3 à 5. Regardez l'ordre que Dieu donne ici. « J'ai donné des ordres à ma sainte armée. » Et si nous avons été fidèles jusque-là, nous ferons partie de la sainte armée de Dieu. Et il va nous donner l'ordre de descendre et d'établir la paix, de l'imposer au point de départ en éliminant les armées qui seront venues pour combattre le Christ. J'ai donné des ordres à ma sainte armée. J'ai appelé les héros de ma colère. Rappelez-vous, c'est le jour de la colère de l'Éternel. Et nous sommes à la fin, à la toute fin, au temps des fléaux. Et il dit, j'ai appelé les héros de ma colère. Ce sont les pauvres êtres humains très faibles que nous sommes qui auront été transformés en êtres spirituels puissants. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On admire la majesté de Dieu. On veut le servir, on veut lui plaire, on veut terminer l'œuvre qu'il nous a donnée de faire en ces temps de la fin. Ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Il dit après ça, on entend une rumeur sur les montagnes. Je comprends. Comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes et de nations rassemblées. C'est quoi ce grand tumulte de nations rassemblées? C'est les 200 millions de soldats venus de l'Orient et les nombreux millions de soldats faisant partie de l'Empire romain qui se retrouvent à Armageddon, près de Jérusalem. Et Dieu donne l'ordre à ce moment-là à ses armées de descendre et de régler la question. Mais il dit, on entend une rumeur sur la montagne, un peuple nombreux, on entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ça, je trouve ça superbe. L'Éternel passe en revue son armée. Il regarde ses enfants, parce que là, on sera devenus ses enfants, de même nature que le Christ. Et je comprends que Dieu aura plaisir, le Père aura plaisir à regarder tous ses enfants qui sont avec le plus vieux de la famille, le Christ, le chef de l'armée de l'Éternel, et qui vont s'apprêter à descendre pour aller combattre les êtres humains insignifiants qui pensent pouvoir détruire Dieu. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, ceux qui forment cette armée-là. Il est loin, le pays. Pour le moment, il est inaccessible pour nous. On ne peut pas aller dans la salle du trône. Il n'y a aucun être humain qui peut aller dans la salle du trône. Il faut qu'il soit transformé en être spirituel et qu'il puisse voyager à la vitesse de la pensée, comme ce sera le cas quand nous serons transformés et que nous irons dans la salle des noces. Ils viennent d'un pays lointain, les membres de cette armée qui descendent maintenant avec le Christ. Ils viennent d'un pays lointain, de la salle du trône, des cieux, de l'extrémité des cieux. Voyez-vous, il précise, cette armée-là, elle vient de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Toute cette contrée-là sera détruite. Ces armées-là seront détruites. Alors, à ce moment-là, le Christ revient avec son armée, avec ses saints glorifiés, pour conquérir, pour écraser, pour éliminer l'ensemble de ces armées humaines venues le combattre. Et il va venir pour ensuite bannir Satan, parce que Satan est toujours en poste. C'est lui qui aura amené ces armées-là, qui aura incité les chefs des nations à envoyer leurs armées pour une guerre finale. Alors le Christ, après ça, bannira Satan et ses démons, et là, il pourra établir son royaume, son gouvernement sur le monde. Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. Ce sera une scène extraordinaire, unique. Voyons ici. Apocalypse 19 et le verset 11. Ici, il décrit quand le Christ revient après les noces de l'agneau, qu'il revient avec les armées qui sont avec lui, avec ses saints glorifiés. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. » Je pense que vous savez de qui il s'agit. « Et il juge et il combat avec justice. » Le Christ revient à ce moment-là dans toute sa puissance. « Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Et quand on regarde au début du livre d'Apocalypse, une vision que Jean a eue du Christ, il le décrit comme ayant des yeux comme une flamme de feu. Ça décrit le Christ dans sa gloire. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Pourquoi est-ce que vous pensez que le vêtement de celui monté sur le cheval blanc et revenant sur la terre pour régner a un vêtement taché de sang? Parce qu'il a donné son sang pour l'ensemble de l'humanité. C'est un symbole extrêmement fort. Il porte sur lui l'insigne de ce qu'il a donné pour vous, pour moi, personnellement. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il n'y a pas de doute possible de qui il s'agit. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Les fidèles serviteurs de Dieu seront aussi sur des chevaux blancs, accompagnant le Christ lors de son retour. Il le suivait sur des chevaux blancs. Ces gens-là sont revêtus d'un fin lin blanc pur. Maintenant, il parle du chef de l'armée de l'Éternel, de ce grand roi sur le cheval blanc. Il dit « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Ça, c'est notre grand frère glorieux qui revient maintenant pour établir le gouvernement de Dieu. Maintenant, je reviens au verset 14, juste pour faire une précision, pour vous montrer comment tout se tient et tout se prouve de plusieurs façons par la Bible, la même grande réalité. Verset 14, « Ceux qui sont avec lui, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. » On a une définition juste avant de qui sont ces gens-là parce qu'ils sont décrits comme ayant du fin lin blanc et pur. C'est l'épouse du Christ, ses fidèles serviteurs, ceux qui ont été appelés, ceux qui ont été choisis par le Christ, parce que la Bible dit que plusieurs sont appelés. Mais ce n'est pas tout le monde qui se met en marche pour obéir à Dieu. Alors, ceux-là ne vont pas plus loin. Mais parmi tous les appelés que Dieu attire au Christ, ceux qui se mettent en marche pour obéir aux lois de Dieu, pour observer son sabbat, pour soutenir son œuvre, pour observer ses fêtes, pour apprendre à servir les autres, pour apprendre à avoir la maîtrise d'eux-mêmes, ceux-là ont l'occasion et pratiquent la justice de Dieu, et à ce moment-là sont vêtus de fin lin. Et ceux-là sont appelés fidèles. Et c'est ceux-là qui accompagnent le Christ. Vous pourrez aller voir dans Apocalypse 17, verset 14. Les appelés, les élus, les fidèles accompagnent le Christ. Ce ne sont pas trois catégories de personnes. Ce sont les mêmes. Ceux qui ont été appelés, mais qui ont décidé de marcher dans les voies de Dieu, là, le Christ les a choisis, lui. Parmi les nombreux appelés, le Christ en choisit juste quelques-uns. Et puis, ceux-là, parmi ceux-là qui ont été fidèles jusqu'au bout, eux seront avec le Christ. Ils ont été appelés, et par leur comportement d'obéissance à Dieu, ils ont été choisis par le Christ. Et parce qu'ils ont persévéré, ils ont été fidèles, et ils feront partie des armées qui vont descendre sur les chevaux blancs. On le voit, regardez, c'est l'épouse du Christ, au verset 7 et 8. Commençons au verset 7 et au verset 8. Revenons au verset 7 où il parle des noces de l'agneau. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Nous devons nous préparer. Comment? Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. » C'est quoi ce fin lin-là qu'on doit revêtir? « Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Alors, le fin lin qu'on revêt, c'est notre façon de vivre selon la justice de Dieu. C'est le fin lin dont il est question. Alors, on voit que ceux qui arrivent avec le Christ sont vêtus de fin lin. Ils lui appartiennent. Un autre événement après ça, important, après la victoire finale du Christ sur les armées réunies, là, il se passe un phénomène concernant les deux êtres humains qui ont tellement suivi Satan et qui ont participé de tout cœur à tout ce malheur qui a frappé l'ensemble de la planète. C'est qu'après la victoire finale du Christ sur les grandes armées réunies, la bête, c'est-à-dire le chef de l'Europe unie, le nouvel Hitler qui va apparaître bientôt, et le faux prophète, le grand personnage religieux qui se prétend Dieu, comme la Bible mentionne, à un moment donné, allant même jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se prétendant Dieu lui-même, et qui va faire descendre du feu du ciel à un moment donné, alors que les gens vont dire, ça ne peut pas être autrement que Dieu qui puisse faire ça. Alors ça, c'est la tromperie de Satan derrière tout ça. Mais après la victoire finale du Christ sur les armées, la bête, le dirigeant humain de l'Empire romain ressuscité et le faux prophète vont être tués. Ils vont être jetés dans l'étang de feu, juste avant les expiations, juste avant que Satan et ses démons ne soient incarcérés. Ils seront rendus prisonniers. Ils vont être empêchés de nuire durant 1000 ans, durant les premiers 1000 ans du règne du Christ. Alors, c'est à ce moment-là que ça arrive. Apocalypse 19, lisons le verset 19 à 21. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. On voit la scène, on revient dans cette scène-là. Et la bête fut prise, le chef de l'Europe unie, et avec elle le faux prophète, le grand personnage religieux, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants, parce que c'est des êtres humains physiques, jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'était un événement extraordinaire, unique dans l'histoire. Alors, ces deux grands responsables humains seront détruits à ce moment-là. Et c'est après que Satan est lié pour 1000 ans. Après que ces deux personnages-là sont détruits, c'est tout de suite après que Satan est lié, empêché de nuire pendant 1000 ans. On le voit tout juste après, Apocalypse 20, versets 1 à 3. Apocalypse 20, versets 1 à 3. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. » Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Voyez-vous, c'est terminé, il ne pourra plus influencer les nations. Et c'est pour ça qu'au cours du premier millénaire du règne du Christ, le monde connaîtra enfin la paix, que la guerre va cesser. C'est marqué dans la Bible que les gens n'apprendront plus la guerre. Ça sera terminé. Les haines, les amertumes, les violences de toutes sortes vont être éliminées de la terre graduellement. Et nous allons enseigner les nations les voies de Dieu, et Dieu va les bénir en conséquence. Et il y aura une abondance extraordinaire. Et la ville de Jérusalem, comme c'est marqué à différents endroits, sera enfin en sécurité. Et on mentionne dans la Bible qu'à ce moment-là, il y a des personnes âgées qui seront assises dans les rues de Jérusalem avec leur bâton à la main, parce qu'ils seront avancés en âge, et les petits-enfants vont jouer dans les rues. Alors que maintenant, Israël et Jérusalem est souvent sous les bombes et sous les attaques. Ce sera un monde complètement nouveau. C'est ce monde-là qu'on annonce. Et c'est cette culture-là que nous représentons. Et c'est pour ça qu'on s'efforce de vivre selon les lois de Dieu, de les mettre en pratique. Parce que pour nous, c'est une façon de vivre. Ce n'est pas simplement une connaissance théorique. Si ça reste une connaissance théorique, nous n'appartenons pas à Dieu. Si non seulement on croit en Dieu, mais qu'on croit ce que Dieu dit, on s'applique à faire sa volonté, à travailler, à changer. On n'est pas parfait d'un coup, mais on demande son aide graduellement. Il ne faut pas se décourager, mais il faut continuer. C'est ce que Dieu nous montre. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, hein, c'est ça, entrera dans le royaume. Alors ici, on voit qu'il y a un ange qui descend du ciel, qui saisit Satan le diable et le lia pour 1000 ans. Verset 3. Il le jeta dans l'abîme, un endroit fermé, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié, pour un peu de temps. Et on sait qu'à la toute fin du premier millénaire du règne heureux du Christ, Dieu va permettre que Satan, pour une dernière fois, soit libéré pour une courte période. Mais on va voir encore, puis c'est annoncé dans les prophéties, que l'humanité, dans une certaine partie, va se laisser convaincre encore. Satan est puissant. Et ils vont vouloir attaquer Jérusalem. Alors que le Christ est là, alors que les saints sont là, alors que le monde a changé, un beau monde de paix. Mais il y aura plein de monde qui vont encore suivre Satan et qui vont malheureusement devoir en payer le prix. Mais ce sera la fin de la malheureuse histoire humaine telle qu'on la connaît. Alors, il le lia pour 1000 ans. Après, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps pour ce dernier test, avant que Dieu ramène à la vie tous ceux qui ont vécu dans l'histoire pour avoir leur chance d'être appelés. Et ça ne s'arrête pas là, parce que tout de suite après que c'est fait, après que Satan, avant le début du millénium, après que Satan est lié, lui et ses démons, empêchés de nuire, qu'est-ce qui se passe? Les postes de responsabilité sont accordés aux serviteurs fidèles de Dieu. Qu'est-ce que le Christ a expliqué? Il dit, ceux qui sont fidèles, il y en a un qui va recevoir l'autorité sur 5 villes, l'autre sur 10 villes. C'est pas dans le ciel, c'est sur la terre. Certains auront des régions à administrer, certains des provinces, certains une ville, 2 villes, 5 villes, comme le Christ mentionne. C'est formidable, mais à ce moment-là, les postes seront attribués aux gens. Et les postes seront attribués à ceux qui l'ont déjà servi dans le passé, qui sont morts en tant que vrais serviteurs de Dieu. On sait même, dans le cas de certains, quels postes qu'ils auront. On voit que les douze apôtres qui ont été fidèles, auront un poste au-dessus de chacune des nations d'Israël. Il y a 12 nations d'Israël, et le Christ leur a dit, on voit dans la Bible, vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 nations d'Israël. Et on voit que le roi David sera ramené à la vie et régnera encore au-dessus des nations d'Israël. Alors, à ce moment-là, je reviens à ça, après que Satan aura été lié, les postes seront attribués à ceux qui seront devenus des êtres spirituels et qui auront prouvé à Dieu qu'ils veulent lui appartenir et faire sa volonté. Dieu va les rendre parfaits à ce moment-là, au moment où ils auront été transformés, et là, ils pourront exercer leurs responsabilités. Dieu va être certain que ces gens-là vont lui être fidèles éternellement et qu'ils ne se détourneront jamais de lui comme Satan avait fait. Ça, c'est formidable. C'est pour ça qu'on a des tests. C'est pour ça qu'on a des épreuves. C'est pour ça qu'on doit vaincre avec l'aide de Dieu. Seul, on est incapable, mais avec l'aide de Dieu, on peut vaincre. Et une fois qu'on aura vaincu, il va nous donner la perfection pour être capable d'être comme le Christ. On sera exactement comme notre grand frère. Et la Bible mentionne qu'on le verra tel qu'il est. Pourquoi? Parce qu'on sera devenu de même nature que lui, totalement spirituel. Bien sûr, on pourra reprendre notre forme physique pour aider les êtres humains sur la terre. Ceux à qui on aura à enseigner, ceux qu'on aura à consoler, ceux qu'on aura à nourrir, ceux qu'on aura à guérir. Et on pourra prendre notre forme physique comme le Christ faisait après sa résurrection. Il l'a fait à quelques reprises. Il a repris son corps physique. Il est allé rencontrer ses apôtres. Et même une fois, il a dit, « Est-ce que vous avez quelque chose à manger? » Quand il est apparu, à un moment donné, au milieu d'eux, il pensait que c'était un fantôme. Il a dit, « Est-ce que vous avez quelque chose à manger? » « Non, c'est moi. » Et ils avaient du poisson. Il dit, « Il a mangé avec eux. » Alors, c'est ce qu'on pourra faire dans le monde à venir pour aider les gens. Alors, les postes de responsabilité seront attribués à ce moment-là, et c'est là que le règne de Christ pourra commencer. On le voit tout de suite après, verset 4, Apocalypse 20. On vient de voir que Satan est enchaîné. Tout de suite après, les postes de responsabilité sont donnés. Verset 4. « Et je vis des trônes. » Ah! Et il y a des gens qui vont s'asseoir sur ces trônes-là pour diriger dans le monde, sous la direction du Christ. « Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger, d'administrer, de diriger, de servir. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » Les gens qui sont morts dans l'Ancien Testament pour servir Dieu, qui ont payé de leur vie les martyrs qu'il y a eu, et dit, ils auront des trônes, ils recevront leurs responsabilités, ces récompenses extraordinaires. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image au temps de la fin, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Voyez-vous, là, ils reçoivent leur poste de service. Et là, ils commencent le règne sur la terre. Et il dit après ça, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Parce que ceux qui reviennent à la vie au moment du retour de Christ, c'est seulement ceux qui lui appartiennent, qui lui ont appartenu dans le passé, ou qui vont lui appartenir au moment où il revient. Mais les autres ne reviennent pas encore à la vie. Ils reviennent à la vie seulement après le 1000 ans, comme la Bible l'explique. Et là, ils ont leur chance pour la première fois de connaître Dieu, de connaître son plan et d'être appelés. Ils seront tous appelés à ce moment-là. Il n'y aura pas simplement quelques-uns qui seront appelés. Ils seront tous appelés. Alors, il dit, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et il dit, ce qui vient de se passer, là, ceux qui sont revenus à la vie, qui reçoivent des postes d'autorité sur les nations, il dit, ça, c'est la première résurrection. C'est la meilleure résurrection. Oui, parce que c'est la résurrection à la vie éternelle. Heureux et saints ceux qui ont part à cette première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Pourquoi il dit la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux? Cette mort-là, ce n'est pas la mort physique, parce que les êtres humains meurent tous physiquement un jour ou l'autre. Cette seconde mort-là, c'est la mort éternelle. Alors, ceux qui sont transformés en êtres spirituels parce qu'ils ont été fidèles, soit ceux de l'Ancien Testament, soit ceux aujourd'hui, ces gens-là sont épargnés de la deuxième mort parce qu'ils ont passé par la première résurrection. Ils sont devenus des êtres immortels. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils sont éternels. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est ça. Et ça, c'est seulement le premier 1000 ans du règne de Christ. La Bible n'en dit pas plus. Il y a beaucoup de places dans la Bible où Dieu ne révèle pas tout. Il nous garde des petites surprises. Et ça va être intéressant de voir en cours de route tout ce que Dieu avait en réserve pour nous. Alors, ici, on vient de voir donc ce qui va se passer. Et ça correspond à ce que je viens de vous dire à Apocalypse 5, verset 10, où il est écrit, « Tu as fait d'eux, tes serviteurs fidèles, transformés en êtres spirituels, un royaume et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. » C'est encore expliqué clairement là. Alors, voyez-vous, en résumé, tous les événements qu'on a vus vont se dérouler à la septième trompette en quelques jours seulement. Tout ce qu'on a vu, là, j'ai pris le temps d'expliquer. J'ai essayé de ne pas expliquer trop non plus pour qu'on garde les éléments des événements clairement dans notre esprit. Mais tout ce qu'on a vu va se dérouler à la septième trompette. Reprenez la brochure, le mystère révélé de l'Apocalypse, et regardez les tableaux qu'on a dedans et les explications. Avec les notes que vous avez prises de ce que je vous ai expliqué, vous aurez plaisir à fortifier votre compréhension et à admirer encore davantage le Dieu formidable que nous avons l'honneur de servir. Les paroles que je vous ai expliquées aujourd'hui ne sont pas de moi, elles sont de Dieu. Et ces paroles-là sont certaines. Et le merveilleux monde à venir deviendra bientôt une réalité.